en dire et des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est le photographe favori d'Hollywood. En 50 ans de carrière, il aura tiré le portrait et sublimé les icônes de la mode et du cinéma, en studio ou sur les plateaux. Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Meryl Streep, Robert Redford ou encore Marilyn Monroe et tant d'autres. Des clichés que l'on peut admirer et d'autres encore jusqu'au 3 juillet. En ce moment à Paris, ça se passe à la galerie Gat Collection. Douglas Kirkland est avec nous et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Douglas Kirkland.
Nice to be here with you today.
C'est un plaisir pour nous. Quelle est la dernière photo que vous avez prise, Douglas Kirkland?
The last photograph I took was here in Paris.
La dernière photo, je l'ai prise il y a pas longtemps, il y a quelques moments, ici à Paris.
I was photographing my many stars who are here. And,
d'ailleurs, à Paris, ça me rappelle que j'ai photographié de nombreuses vedettes.
Was doing it last night.
Et la dernière photo, c'était hier soir, en fait.
It was with, I was with friends, and we were just, you know, I look at faces and I
nous
see
étions
your faces
entre amis, et je me dis, il faut que je prenne une photo.
I could make pictures of you,
et
each
puis,
of you.
D'ailleurs, vous aussi, Jean-François, je pourrais prendre votre, tirer votre portrait.
Eh bien, écoutez, ce serait un très très grand honneur pour moi. Rendez-vous est pris pour après l'émission. Alors, la photo qui a fait exploser votre carrière, Douglas Kirkland, les photos qui ont fait exploser votre carrière, c'est pas une photo de Jean-François Cadet, c'est une photo d'Elizabeth Taylor. On est en 1961, vous venez d'être engagée au magazine Look. Au départ, elle avait accepté une interview, hein, mais elle n'avait pas parlé de séance photo. Comment est-ce que vous avez réussi à la convaincre?
I've convinced Elizabeth Taylor in this following manner. I was with a journalist and I was the new boy.
Un journaliste. Je venais d'arriver chez Look Magazine. C'était une publication importante. Il y avait quand même 7 millions d'exemplaires vendus de Look Magazine à l'époque.
I was alone with the journalist.
Donc nous étions tous les deux, le journaliste et moi. Il a mené son entretien. Puis je me suis approché d'Elizabeth Taylor et je lui ai dit,
Elizabeth,
moi je suis tout nouveau chez Look. Imaginez le bonheur que ce serait pour moi si je pouvais prendre votre photo, ce serait le début de ma carrière.
She thought for a moment.
Elle a réfléchi.
And she had not been photographed for almost a year.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de photos d'elle, près d'un an, parce qu'elle avait été malade.
A film that she had done in England and
elle avait tourné un film en Angleterre.
He had not made a movie in that period of almost a year.
Et elle avait disparu des écrans pendant environ un an. Bref, elle m'a regardé dans les yeux. Nous nous sommes regardés. Et moi, j'étais un jeune gars innocent. Imaginez, quelqu'un qui vient de l'Ontario, parce que je suis canadien. Me voilà, jeune photographe. Et j'ai dit, en toute candeur, Elizabeth, est-ce que vous permettez que je prenne une photo? Nous nous sommes serré la main. Nous nous sommes serré la main longtemps et je lui ai dit, Elizabeth, est-ce que vous vous rendez compte ce que ça va représenter pour moi si vous me laissez prendre votre photo? And she accepted.
And she thought for a moment, and then she said, okay, come tomorrow night at 7:30.
Bon, d'accord, demain soir à 19h30. Et après, les choses se sont enchaînées.
Voilà, les choses se sont enchaînées et vous avez eu le succès que l'on connaît. Votre série, sans doute la plus célèbre ensuite, c'est celle de Marilyn Monroe. On est en 61 à l'occasion du 25e anniversaire du magazine Look. Il y a évidemment cette photo à la galerie Gat Collection, mais juste à côté, il y a un autre cliché qui vous montre vous-même en train de shooter Marilyn. Vous pouvez nous décrire cette photo et nous raconter comment ça s'est passé cet instant-là?
This is me with Elizabeth, with Marilyn Monroe.
Elizabeth Taylor à Marilyn Monroe.
I know what we need.
Et Marilyn Monroe m'a dit, je sais ce qu'il nous faut pour faire une photo.
She said, I know we need a bed.
Ce qu'il nous faudrait, c'est un lit.
Silk sheets.
un lit, des draps en soie et puis un peu de champagne Dom Pérignon. Ça fera pas de mal. Et si on a tous ces ingrédients-là, on va faire une belle photo. Encore une fois, moi j'étais encore jeune à cette époque. Je travaillais pour le magazine.
We had the Dom Pérignon.
Le champagne Dom Pérignon est arrivé.
The bed already for her.
Le lit
she said,
était à disposition.
Alone in the bed.
Elle a dit, je vais m'allonger seule sur
I
le lit.
Have a white silk sheet only covering me.
Et je n'aurai sur moi qu'un drap en soie.
The rest is history.
Donc c'est elle qui a un petit peu imposé les conditions de cette photo. Moi, j'étais armé de mon appareil Hasselblad. Et moi, j'ai proposé différentes choses. Qu'est-ce que j'allais proposer à Marilyn Monroe allongée dans un lit, moi?
Vous savez, j'étais un jeune garçon,
je venais du Canada. Mon objectif, si je puis dire, mon but, c'était de la convaincre de regarder mon appareil. Voilà les photos. En réalité, il y en a une qui est plus importante.
Oui, c'est celle où l'on voit effectivement Marilyn dans ses draps de soie, hein, en train de tenir très très fortement un oreiller. C'est vous qui lui avez suggéré cette pose ou c'est elle qui a décidé d'apparaître ainsi devant votre objectif?
Marilyn a dit donc, il faut simplement le lit avec les draps en soie. Et puis le champagne Dom Pérignon. Et puis moi j'ai fait des propositions, elle aussi. On a pris plein de photos.
As we started to work,
et puis,
she said, I want everybody out of here.
Dès qu'on était prêts, elle a dit, sortez tous, je vais être seul avec ce jeune garçon photographe. Parce que ça fonctionne mieux quand je suis seul avec le photographe, a-t-elle dit.
So here, Douglas Kirkland is from this tiny village of Fort Erie.
Douglas Kirkland qui vient de Fort Erie, en petit bled de l'Ontario, tout seul dans une chambre avec Marilyn Monroe.
The truth of the matter is, you have to suggest everything and promise everything with your camera.
Avec l'appareil photo, il faut faire des propositions.
Good photographs are made.
Idées, et c'est ainsi qu'on fait de bonnes photos.
You come in and you get a close-up and
then
you say a few nice words. How much I can't say here today. That's where this photograph came from.
This photograph has been run
all over the world.
Cette photo de Marilyn dans ses draps de soie, elle a fait le tour du monde.
And I was in Paris when I heard of her passing away.
J'étais très triste quand Marilyn est décédée. J'étais à Paris, je faisais des photos avec Coco Chanel, je me souviens.
That Marilyn
et j'ai appris la triste nouvelle.
And I couldn't believe it. I went back to my hotel.
J'avais du mal à le croire.
The people in the hotel, they said, yes, she
je suis rentré
died
à l'hôtel, on m'a confirmé la nouvelle.
Less than a year after I'd
c'était moins d'un an
and
après.
We had planned to do
ma séance photo avec elle, alors qu'on avait des projets.
Une séance photo avec une star, pour vous, Douglas Kirkland, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un rapport de force?
When you take photographs with stars, is there any power brokering involved? Is it a game? Tell us the atmosphere, the rapport.
The rapport is just as I'm talking with you right now, today.
C'est celui que j'ai avec vous, là,
this
maintenant.
Is what you transmit.
Il s'agit de transmettre ce que l'on ressent. Il y a de l'exaltation. Il faut que cette exaltation de la relation entre deux personnes ressorte dans le cliché. C'est ça le travail du photographe. Et c'est ce à quoi je m'attache quand je travaille. Et j'adore produire de belles images. Et ma carrière a été jalonné d'images que j'ai prises.
C'est-à-dire que le plus important, quand vous allez photographier quelqu'un, c'est de le mettre en confiance, c'est de créer une relation particulière entre lui et vous.
Faut qu'il y ait une espèce de sexualité dans le rapport. Vous voyez, faut qu'il y ait de la séduction. Et il faut vraiment faire montre d'amour en réalité envers cette personne avec qui on va faire une photo, avec qui on va faire une photo. Et donc ce que l'on projette, eh bien on le reçoit.
Parce que là,
voilà de quoi est constituée la carrière de Douglas Kirkland.
Voilà, parce que quand il y a effectivement ces photos qu'on voit devant nous, hein, il y a par exemple Jack Nicholson. On a un peu l'impression qu'il joue avec l'objectif de votre caméra. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment où vous avez appuyé sur le déclencheur?
Je vais vous raconter l'histoire de Jack Nicholson.
Jack Nicholson, I went to his home where I was supposed to photograph.
On avait rendez-vous chez lui, à son domicile.
It was about 9 in the morning.
Il était 9 heures du matin à peu près.
And I rang the doorbell.
Je sonne à la porte.
Once, twice.
Une fois, deux fois.
And he finally came out and he had,
au bout d'un moment, il arrive.
Been sleeping.
Manifestement, je l'avais tiré du lit.
And, once we started taking pictures,
on s'est installé. On a commencé à travailler.
A cup of coffee or
il s'est servi
between.
Une tasse de café.
And, then he said,
et puis il a eu une idée.
I think I'll smoke
il dit,
a match.
Je vais fumer. Je vais fumer une allumette. Il allume une allumette, il se la met dans la bouche.
You see the match in his mouth.
On le voit donc avec une allumette allumée dans la bouche, un regard à la Jack Nicholson et un grand sourire. C'était pour People Magazine, magazine qui venait d'être récemment lancé. Et en fait, ça n'a pas plu à la rédaction.
You should photograph him again.
Ils m'ont dit, il faut que tu repartes prendre des photos.
Ah oui.
Mais malheureusement, il était en tournage en Europe, il n'était plus disponible pour une séance photo. Donc, ils n'ont pas d'autres possibilités que d'utiliser cette photo de Jack Nicholson. Et c'est du reste la photo la plus célèbre de People Magazine pour cette année-là. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Connect with
tout ça pour dire qu'il faut être en rapport, un bon rapport avec les gens. Là, par exemple, nous avons un très bon rapport ici dans votre émission autour de la table. Ça se passe très bien, mais il faut que ça se passe comme ça quand on fait une séance photo.
Douglas Kirkland, parmi les très grandes dames que vous avez rencontrées, il y en a une que vous appelez, je crois, mademoiselle. C'est évidemment Coco Chanel, hein, que vous avez suivie pendant 3 semaines à Paris, justement, dans son atelier rue Cambon. C'était en 62. Là, on n'est pas vraiment dans le portrait, on est quasiment dans le photoreportage. Qu'est-ce que vous vouliez montrer en l'accompagnant ainsi pendant tant et tant de jours?
You know, the interesting thing with Douglas Kirkland and Mademoiselle Chanel was that I did not speak a word.
Intéressant dans cette relation entre Douglas Kirkland et Coco Chanel, c'est que moi je ne parlais pas français. Elle m'ignorait.
My job was to get pictures
et moi, il fallait que je prenne des clichés
Chanel.
De Mademoiselle Chanel.
And, she liked to be called Mademoiselle,
on aimait bien qu'on l'appelle Mademoiselle, bien qu'elle ait eu 70 ans, elle insistait pour qu'on l'appelle Mademoiselle.
So what happened is, I was walking down a hallway
dans un couloir chez Chanel.
And we walked into each other,
et tout à coup, nous nous sommes fait face.
Face to face. And she said,
et elle m'a dit bonjour.
And I didn't understand even what bonjour was.
Et moi, j'étais tellement nul en français que j'ai même pas compris la signification de bonjour.
Puis
elle m'a dit dans un anglais impeccable, j'ignorais qu'elle parlait anglais, elle m'a dit,
she said, I just said good morning,
je viens de vous dire bonjour. Elle m'a dit ça en anglais.
And after that, she helped me and et she brought
cela,
me into
elle m'est venue
the French
en aide.
Society in
elle
many
m'a
ways.
Présenté à de nombreuses personnes. Elle m'a fait comprendre comment il fallait intégrer la société française. C'était un moment inoubliable. Et depuis ce jour-là, j'adore la France. Et du reste, j'ai épousé une femme française, Françoise.
She's here with me today.
Et elle était ma compagnie aujourd'hui ici à RFI. Ça fait 51 ans qu'on est mariés, Françoise et moi.
Very cool. And I feel Mademoiselle started.
Et en fait, tout ça, c'est, je le dois à Mademoiselle.
VMDN avec le photographe canadien Douglas Kirkland qui expose jusqu'au 3 juillet à la galerie Gat Collection à Paris. Les stars de cinéma, vous les avez aussi photographiées sur les tournages, hein, Douglas Kirkland, l'Odyssée de l'espace, Titanic, Out of Africa, hein, par exemple. Il y a une photo dans l'exposition à la galerie Gat Collection avec effectivement Robert Redford et Meryl Streep assis dans l'herbe. C'est une photo de cinéma, c'est une photo tout court, ou c'est un tableau?
These people wonder where this picture came from. I was on the entire making of Out of Africa.
J'étais sur le tournage de Out of Africa au Kenya.
I knew the scene was being. I read the script and I knew the scene.
J'avais lu le scénario. Je connaissais les scènes.
Redford and Streep were acting in a very important scene.
Je savais qu'il y avait cette scène très importante.
It became the principal ad art for the movie. This picture.
Cette scène évidemment était très importante pour l'affiche du film.
And listening and being sensitive to them.
This is what photography is all about. Très sensible, qui est à l'écoute. And this is what I care about when I talk to all of you. Et c'est ça la photo. Vous voyez, il faut faire attention à ce que l'on fait. Il faut donner du cœur, mettre du cœur à l'ouvrage. Meryl Streep sait très bien le faire.
Comment est-ce que la photo est entrée dans votre vie, Douglas Kirkland? Vous avez commencé à partir de quel moment à vous dire « Je veux être photographe, je veux en faire mon métier ».
Moi, j'ai grandi dans une petite ville de 7000 habitants dans l'Ontario, Fort Erie, et l'homme le plus célèbre de la ville, c'était l'homme qui prenait des photos. Au bout d'un moment, j'ai eu un appareil de presse et je lui ai piqué son boulot dans cette petite ville de 7000 habitants. C'est moi qui ai eu ce poste. J'ai commencé à faire des photos de mariage, d'enfants, de bébés, de nouveau-nés. C'est moi qui suis devenu le photographe de cette petite ville. Ça, c'était le début de ma carrière. Petit à petit, ça n'a fait que croître et embellir. Ma vie n'a pas toujours été facile, mais j'ai toujours eu cette passion, cet amour pour la photo. En réalité, je dois tout cela à mon oncle Scott, qui était en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale.
Et il a fait ça mon camera.
Il a eu un contact et il m'a donné un petit appareil photo qui est devenu mon appareil photo très cher, cher à moi, à mon cœur.
Et voilà comment votre histoire a commencé et que vous avez pu bien plus tard photographier les plus grandes stars du cinéma, notamment à Hollywood. Merci beaucoup Douglas Kirkland d'être passé nous voir sur RFI. Je rappelle que vous exposez à Paris à la galerie Gat Collection jusqu'au 3 juillet.
They've got a lot of my best pictures there.
Main, d'œuvre. Main d'œuvre. Margot BD. Aujourd'hui, je suis
le designer des odeurs. J'en ai pris trop. Je suis Karine Chevalier, je suis parfumeur indépendant dans ma propre entreprise qui s'appelle Olfactive Design. Je donne également des cours de création de parfumerie à l'École supérieure du parfum dans le 15e arrondissement à Paris. Donc là, on est dans mon laboratoire. Donc en fait, c'est ça qu'on appelle un orgue de parfumeur. Donc vous avez sur ces étagères tous les matières premières dont je vais me servir pour créer mes parfums. Tous ces petits flacons dans lesquels vous pouvez voir qu'il y a soit des liquides, soit des produits plus visqueux, soit des poudres. Ces petits flacons, c'est les matières premières qui constituent mon orgue, qui vont constituer ma palette de parfumeur pour arriver à créer mes parfums. Alors la première chose que je fais, parce que les parfumeurs sont très maniaques, je nettoie ma balance. Donc l'idée, c'est de peser ce tout petit essai. Là, on est vraiment dans juste un accord qui n'est pas un parfum. L'idée, c'est de reproduire une odeur et qu'on va pouvoir intégrer ensuite à un parfum. cet accord, c'est un accord sur l'odeur du goudron. Donc là, c'est une poudre. Je passe au produit suivant. Voilà. Et donc, comme c'est un accord, je le dilue tout de suite dans l'alcool. Et alors là, comme il y a des poudres et du bois de kayak, on va passer à l'étape de bain-marie où on va devoir faire fondre ce qu'il y a dedans. On travaille vraiment à partir des inspirations de nos clients. Moi, j'aime bien souvent dire que je suis comme un écrivain public, c'est-à-dire que j'ai une technique, un client qui vient me voir qui a une envie olfactive et que moi, je vais savoir la mettre en odeur. Et donc, je vais leur faire parler de l'environnement de leur marque, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire par le parfum dans cette marque qu'ils vont sortir. Et de là, on va trouver, nous, parfumeurs, des sources d'inspiration. Puis après, on commence à travailler nos formules. Toujours une étiquette. Donc, c'est le cinquième essai que je fais sur mon accord goudron depuis ce matin. Et donc, notre métier, c'est vraiment un métier de comparaison. Donc, je trouvais que l'accord 4 était pas mal. Donc, je vais comparer l'essai 4 par rapport à l'essai 5. Ça ne sent toujours pas le goudron. C'est formidable. Donc là, on est typiquement dans une impasse. Et donc, au bout de 5 essais, je vais décider de changer mon fusil d'épaule. Cette faculté de vous transporter et dans le temps et dans les lieux alors que vous bougez pas, c'est vraiment ça le plus grand pouvoir de l'odeur.
Aujourd'hui, j'étais
le designer des odeurs.
Cette semaine, Carmen Lunsman, Fanny Blechner, Daphné Gasteldi et Alain Pilot. Bonjour à toutes et à
bonjour
tous.
Jean-François. Bonjour Jean-François.
Bonjour à tous.
Vous avez choisi, Alain, de mettre à l'honneur une des chanteuses américaines les plus francophiles.
Qui chante encore en anglais mais s'exprime parfaitement en français. Elle s'appelle Brisa Rocher et ne fait pas que du rock.
Oui, humour, humour, Alain. Musique toujours avec vous, Carmen. Vous nous fixez rendez-vous dans les bas-fonds de Londres.
Ouais, The Beggar's Opera, l'opéra des gueux de John Gay. C'est tout simplement la première comédie musicale de tous les temps, quoique créée avec 3 siècles d'avance.
Et puis, dans un instant avec vous, Daphné, on va aller à Könitz, en Bosnie-Herzégovine, pour découvrir une galerie d'art contemporain, pas du tout, mais alors pas du tout comme les autres.
Non, c'est le cas de dire, il s'agit de l'ancien bunker de Tito, qui est à 1 heure de Sarajevo et qui est devenue une des galeries d'art et une des collections les plus importantes de la région des Balkans.
Mais d'abord, littérature avec vous, Fanny, avec l'écrivain américain Armistead Maupin, qui vient de sortir son autobiographie.
Ah oui, l'auteur des fameuses chroniques de San Francisco, grand succès des années 70, qui dépeint les aventures de divers personnages dans la ville, est aujourd'hui âgé de 74 ans. Il était cette semaine de passage à Paris pour présenter Mon autre famille, un titre un peu différent de l'original.
The English title is My Logical Family, Ma Famille Logique.
En anglais, le titre, c'est My Logical Family, Ma Famille Logique. C'est un jeu de mots avec famille biologique. Anna Madrigal, le personnage des chroniques de San Francisco, le dit un moment dans un de ses livres, il y a 10 ans, pour réconforter son jeune locataire gay. Il y a ta famille biologique et puis ta famille logique. C'est ce qui a du sens pour toi. Pour ma part, j'en ai pris conscience en vieillissant parce que certains membres de ma famille ne m'accompagnent pas sur le chemin de ma vie. Il faut donc trouver des personnes qui seraient sincères, solides. Et c'est ce que j'ai fait.
Et la famille, c'est bien cela dont il est question dans cette autobiographie, puisqu'Armistead Maupin vient d'un milieu très conservateur en Caroline du Nord, dans le sud des États-Unis, et ce n'est qu'une fois jeune homme qu'il va prendre ses distances.
I was raised in a very racist environment in the South.
J'ai été élevé dans un environnement très raciste dans le Sud. J'aime le Sud, j'aime ses histoires et enfants. Je ne me suis pas interrogé sur le racisme de mon père, et pas seulement le racisme, mais tout ce qu'il y a de pire aux États-Unis aujourd'hui. La misogynie, l'homophobie, la méfiance envers les étrangers, les migrants. Ça faisait partie de ma vie et au quotidien. Et quand je suis arrivé à San Francisco il y a 40 ans, et que j'ai rencontré des gens tolérants et intéressants, tout a changé. Ce n'était pas seulement changer de ville, c'était décider de faire mon coming out, d'être gay, d'avoir une vie sexuelle pour la première fois. J'étais vierge avant mes 25 ans. Et j'ai rencontré des hétéros qui étaient plus à l'aise avec ma sexualité que moi. Ça m'a ouvert les yeux et je me suis rendu compte que je m'en étais fait tout un plat depuis des années et des années.
And that opened up my eyes. I realized I'd been making a big thing out of nothing for years and years and years.
Oui, tout un plat, enfin toute une montagne, on peut quand même un peu le comprendre. Fanny, il faut rappeler que dans les années 80, l'homosexualité était punie par la loi dans certains États américains.
Et la lutte pour les droits des homosexuels constitue une partie importante de son histoire.
Homosexuality was considered a mental illness. It was a crime. And let's see, what was the other one?
L'homosexualité était considérée comme une maladie mentale, un crime, et quoi d'autre? Un péché. On ne devrait pas être gay. Le monde a changé depuis et j'ai pris part à ce changement en faisant ce que j'ai fait. Je suis devenu activiste dès que je suis arrivé à San Francisco. Il y a toujours aux États-Unis des parents qui vont à l'église et on leur dit que leurs enfants sont mauvais et qu'il faut les changer. J'ai décidé d'en faire mon affaire et me battre contre ça. Je le fais avec humour et une ouverture d'esprit. Je dis juste la vérité quand l'occasion se présente.
Se battre pour l'égalité, cela passe pour Armistead de Maupin par l'écriture. La fiction n'est jamais très loin de la réalité.
Les chroniques de San Francisco sont très autobiographiques. J'utilise tout le temps des aspects de ma vie, et pas seulement pour les personnages gays, également pour des personnages féminins ou transgenres, comme Mrs. Madrigal. Je crois que c'est assez commun chez les écrivains de fiction. On trouve quelque chose dans sa propre expérience qui permette de créer un personnage réel et crédible. Et puis, on fait suffisamment de modifications pour que les gens ne sachent pas que vous parlez de vous.
Et cette autobiographie est très différente du reste de l'œuvre de l'écrivain, Fanny. Là, on le suit chronologiquement depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui.
Et puis, plusieurs grands événements historiques croisent sa route.
J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été un jeune conservateur, j'ai été invité à la Maison Blanche par Richard Nixon. J'étais là quand Harvey Milk, le conseiller municipal gay de San Francisco, a été assassiné. J'ai participé à la guerre du Vietnam, j'ai des choses à raconter. Et je suis allé dans beaucoup d'endroits et je suppose que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire mes mémoires.
Des mémoires qui se terminent en épilogue par une lettre datant de 1977 et parue dans le cadre du feuilleton publié dans le San Francisco Chronicle. Michael révèle à sa mère son homosexualité.
I wanted to explain to my parents exactly how I felt about it, that I was not.
Je voulais expliquer précisément à mes parents comment je me sentais à ce sujet. Leur dire que je n'avais pas honte d'être gay, que c'était une expérience joyeuse, que c'était plaisant. Je ne voulais pas que ma mère s'inquiète pour moi comme le font beaucoup de mères. Je n'ai pas eu le courage de passer un coup de fil ou d'écrire une lettre personnelle. Donc j'ai écrit une lettre, mais d'un personnage fictif à sa mère. Mes parents lisaient les journaux à cette époque, donc ils ont su. Et je voulais terminer mes mémoires avec cette lettre parce qu'elle a tellement changé ma vie.
Et dans cette lettre, le personnage écrit « Être gay m'a appris la tolérance, la compassion et l'humilité, m'a montré le potentiel infini de la vie, m'a fait rencontrer des gens dont la passion, la générosité et la sensibilité ont été constamment pour moi une source d'énergie. Être gay m'a fait entrer dans la grande famille humaine, maman, et je m'y plais, je m'y sens bien. »
Bon, notre famille d'Armistead Maupin vient donc de paraître aux éditions de l'Olivier. À noter également que les chroniques de San Francisco vont être adaptées sur Netflix et diffusées en début d'année prochaine. Merci Fanny.
For joys, love is just our duty. Only she who love employs well deserves her beauty. Let's make hay while we may. Beauty to flower despite the decay.
It's the season, make her joy. Love is just our duty. Let us drink and dance today. Ours is not to
Que la fête commence et celle-ci se passe au milieu de voleurs, prostituées et policiers corrompus. C'est là qu'un certain John Gay, poète et dramaturge anglais, a puisé l'inspiration pour The Beggar's Opera, l'opéra des gueux, créé en 1728. Près de 3 siècles plus tard, l'œuvre a été ressuscitée par une vigoureuse troupe de comédiens, chanteurs, danseurs britanniques sous la houlette d'un duo d'outre-Atlantique, le metteur en scène canadien Robert Carson et le chef d'orchestre franco-américain William Christie, fondateur de l'ensemble baroque Les Arts Florissants, qui sont eux-mêmes de la partie. Alors Carmen, comment se présente cette nouvelle production créée au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris le mois dernier, qui sera en tournée jusqu'en 2020?
Eh bien, dans une ambiance survoltée. Le plateau est pris d'assaut par une bande d'escrocs dissimulés sous des capuches et derrière des lunettes noires. Ils se ruent sur des cartons empilés par centaines jusqu'au plafond du théâtre. En fait, Jean-François, cette joyeuse bande de malfrats a un malin plaisir de transformer les théâtres traditionnels sur sa route en caverne d'Ali Baba du 21e siècle, où ils stockent leurs marchandises, des ordinateurs, des portables, tablettes et téléphones mobiles dans des cartons tombés du camion, comme on dit. Mais d'un coup, à la plus grande surprise du public ébahi, ils en sortent des instruments de musique baroque.
Ce que l'on entend, Carmen, ce ne sont pas seulement les notes qui sautillent.
Bah, en effet, ceux qui ne manipulent pas les cordes ou les percussions, ils se lancent sur la piste pour une danse frénétique, style hip-hop assez acrobatique. Et en plus, ils chantent à plein poumon. Cet opéra des gueux n'est pas seulement le prédécesseur du célèbre opéra de Katsu, écrit 200 ans plus tard par le duo allemand Bertolt Brecht et Kurt Weill, ou encore réorchestré par Benjamin Britten et adapté au cinéma par Peter Brook au milieu du siècle dernier. Cette pièce de théâtre, entrecoupée de chansons populaires et savantes, et surtout, selon son metteur en scène Robert Carson, la première comédie musicale.
Ça a complètement révolutionné le théâtre de son époque. C'était une pièce qui se moquait de tout, qui était exactement l'inverse de l'opéra grandiose, qui a commencé à envahir l'Angleterre à partir de 1711, quand Handel était joué pour la première fois à Londres. Sensationnel succès de Rinaldo. Et puis, 15 ans plus tard, les gens avaient marre de toutes ces extravagances théâtrales, les castrats, les grands costumes, les énormes changements de décor, et surtout, des œuvres chantées dans une langue que personne parlait ni comprenait, l'italien. Donc, ils ont eu l'idée de faire une pièce où, au lieu que ce soit des rois et des mages et des sorcières et des princesses sur le plateau, que c'était des criminels, des prostituées et des officiels corrompus, et de tourner en dérision les événements politiques de l'époque et de ponctuer cette narration avec plein de petites chansons qui existaient déjà, qui étaient très populaires et très connues par tout le monde. Since laws were made for every degree to curb vice in others as well as me, why ain't we got better company upon time?
Très connue comme cette chanson d'amour du XVIe siècle, écrite selon la légende par le roi Henri VIII pour sa deuxième épouse Anne Boleyn, et que vous avez peut-être reconnue, Jean-François.
Greensleeves, devenu un tube planétaire depuis, repris par Elvis Presley, Marianne Faithfull, Leonard Cohen ou encore Jacques Brel. Un texte qui semble quand même un petit peu détourné dans cette version, Carmen.
En tout cas, au lieu de l'amour, on parle plutôt de l'or qui adoucit la loi. Florian Carré, le claveciniste de la bande de 10 musiciens.
C'est le principe de la parodie. On prend une musique existante et on lui ajoute un nouveau texte. Pour la plupart, ce sont des mélodies populaires anglaises, soit irlandaises, soit écossaises, et certaines sont des extraits d'opéra.
Au début, je me suis dit, mon Dieu, 68 morceaux de musique. Mais Ces morceaux durent entre 20 secondes et 2 minutes. Donc c'est des petits...
You'll think before this week is through, this sentence not severe.
Ça se moque du milieu politique de l'époque, puisque par exemple dans l'acte 3, on a une chanson très connue, la chanson de Walpole, premier ministre anglais de l'époque, et on sait qu'il avait eu des majorités au Parlement parce qu'il avait usé de corruption. Aujourd'hui, je pense que la corruption dans le milieu politique est toujours d'actualité.
Des gueux pleins de panache qui vont donc continuer à mettre sans dessus dessous les plateaux jusqu'en 2020. Prochain coup, 19 salles en France, 3 en Italie. Et ensuite, ce sera le Royaume-Uni, la Suisse, le Luxembourg et la Grèce. Merci, Karen. Nous sommes le 25 mai, date à laquelle quelques nostalgiques de l'époque yougoslave célèbrent encore la naissance du maréchal Tito et le jour de la jeunesse, symbole de fraternité jusqu'à l'éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Pour l'occasion, certains touristes des Balkans vont visiter le plus important bunker de Tito, caché dans la montagne en Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, il est devenu une galerie d'art contemporain renommée et vous y étiez il y a quelques jours, Daphné.
Oui, je me suis rendue à Konjic, à une heure au sud-ouest de Sarajevo, pour visiter le bunker. C'est un vestige de la guerre froide qui fait partie du patrimoine de la région. Il a été construit sous la montagne, près de la rivière Neretva. Et de l'extérieur, on ne se doute de rien. Hormis la présence de quelques gardes à l'entrée, Jean-François, vous pourriez croire qu'il s'agit d'une paisible maison de campagne et non d'un terrain militaire. Mais derrière la porte se trouve un bunker de 6 400 m².
Oui, un bunker qui, récemment encore, n'était pas connu du public.
C'est exact. Le bunker était classé secret défense jusqu'à la fin des années 90. Il a été construit pendant la guerre froide, lorsque la fédération socialiste gouvernée par Tito était en rupture avec l'URSS de Staline à l'intérieur même du bloc communiste. Ce bunker est doté de technologies très pointues pour l'époque. Il a coûté une somme astronomique, tenez-vous bien, plus de 4 milliards de dollars. Je vous propose de descendre sous terre avec Mirnes Bayitz. Il coordonne le projet artistique du bunker.
Yeah, let's go.
Ok, allons-y. Le garage est en fait l'entrée du bunker. Ce bunker peut supporter une attaque deux fois supérieure à celle d'Hiroshima. Maintenant, on entre dans le bloc 6, le bloc des communications. Dans la pièce d'à côté, on trouve des téléscripteurs, la meilleure manière possible de communiquer de façon digitale à cette époque. On parlait de communication chiffrée, car toute la communication fonctionnait à partir d'un code.
Donc là, on est dans le bloc 8, qui était destiné plutôt aux personnes les plus importantes de l'État.
And next room is Tito's office.
Et la chambre suivante est le bureau de Tito. À l'intérieur de cette pièce, on voit l'endroit où Tito était censé travailler et l'endroit où il pouvait recevoir les personnes qui voulaient le rencontrer. Maintenant, on entre dans le bloc 10. C'était le bloc énergétique.
Now we are entering to the block 10. Block 10 was an energetic block.
À la sortie, il y a un téléphone rouge.
This red telephone is very important for this bunker.
Ce téléphone rouge est très important pour le bunker. Des câbles connectés à des explosifs étaient reliés à ce téléphone, mis en place par l'armée yougoslave. La règle de l'armée yougoslave était, s'il faut s'échapper du bunker, il faut le faire exploser pour que personne ne puisse s'en emparer.
Oui, en fait, Daphné, on a un peu l'impression d'être dans une machine à remonter le temps.
Complètement, et on perd rapidement la notion du temps dans ce labyrinthe. En cas d'attaque, 350 personnes pouvaient y vivre en autarcie pendant 6 mois. Il n'a jamais servi jusqu'à ce qu'il y ait ce projet fou. La création d'une biennale d'art contemporain, c'était en 2011. Au fur et à mesure des biennales, des œuvres sont restées dans l'abri antinucléaire. Et grâce à ce concept, le pays détient désormais une des collections les plus importantes des Balkans. Actuellement, une centaine d'artistes locaux et internationaux y ont laissé leurs œuvres.
Very, very interesting artwork of Annalisa Canito.
Un travail très, très intéressant d'Annalisa Canito. Il y a des balles suspendues en l'air. Quand on se met en face, on se rend compte que cela forme une étoile parfaite. L'étoile communiste représentait un idéal à atteindre. Comme vous le savez, la Yougoslavie n'a jamais été attaquée, donc ces balles n'ont pas servi à se défendre. Malheureusement, ces balles ont servi contre la population en Yougoslavie lors de la dernière guerre. C'est pour cela que les balles sont orientées les unes vers les autres.
Alors là, on a une œuvre particulière, on entend un chant et on voit une armoire qui tourne sur elle.
Dragoljubraza Todosijević est un des artistes qui a posé la question : devons-nous mettre des œuvres d'art dans ce bunker ? L'art est quelque chose de trop noble pour être installé dans un monstrueux abri antinucléaire. Donc il a placé une armoire vide, qui tourne sur elle-même, pour montrer l'inutilité de ce bunker aujourd'hui.
Box, which is turning around, representing unuseless of this bunker today.
Donc un abri antinucléaire devenu une galerie d'art, c'est évidemment assez atypique. Qui visite ce lieu, Daphné, en Bosnie-Herzégovine ?
Le bunker de Tito n'est ouvert au public que depuis 2011. Il y a beaucoup de scolaires de la région qui viennent, surtout de Slovénie, des touristes régionaux mais aussi internationaux. On a rencontré John, il vient de Californie et il voyage dans la région pour en savoir plus sur l'histoire de l'ex-Yougoslavie.
Je pense que j'étais d'abord intéressé par le concept de survie en temps de guerre nucléaire et de ce que les personnes construisent, et aussi par le concept de secret autour. Mais j'ai été impressionné par la qualité de ce travail, qui est très élevé, très international et c'est profond.
Et puis, il y a aussi certains touristes des Balkans qui viennent un peu en pèlerinage. Cette tendance s'appelle la Yugo-nostalgie. Le 25 mai, jour officiel de célébration de la jeunesse yougoslave jusqu'à la fin des années 80, est toujours commémoré par certains. Aujourd'hui, les guides, comme Almaliz D, s'attendent à un pic de visiteurs.
Bien sûr, ce sont les plus nostalgiques qui ont aimé vivre en Yougoslavie à l'époque de Tito. Je pense qu'ils essaient de trouver des connexions entre ce qu'il s'est passé dans les années 1990 et ce qu'il s'est passé avant la guerre. En bref, la Yougoslavie était en guerre froide, et quand Tito est décédé, tout s'est écroulé, si je puis dire. Avec tout ce projet d'art contemporain, on essaie de détruire ces frontières, ces concepts de peur et d'obscurité.
Alors l'endroit est donc devenu une sorte d'institution. Daphné, est-ce que l'on en sait un petit peu plus sur les projets à venir ?
Oui, les organisateurs de la Biennale d'art contemporain dans le bunker espèrent bien que ce lieu deviendra officiellement un musée en Bosnie-Herzégovine. En attendant, ils préparent la prochaine Biennale et pour faire écho à l'histoire de la guerre froide entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, ils comptent sur la présence d'artistes américains et russes l'année prochaine.
Une présence qui serait effectivement symbolique. Merci Daphné. Et pour ceux qui comptent voyager dans les Balkans cet été, sachez que ce bunker de Tito est à visiter dans la ville de Konitz, donc en Bosnie-Herzégovine. Merci. Brisa Rocher, Patience, extrait de son nouveau disque Father, qui signifie père en français, un album concept, Alain ?
Totalement. Brisa brise un tabou, celui de parler enfin de son père, Jim Rocher, disparu lorsqu'elle avait 16 ans, après y avoir bien réfléchi, un papa avec qui, notamment, elle dansait sur la musique du groupe Talking Heads.
Comme je dis dans l'histoire, en fait, il y a la moitié des morceaux sur l'album, et ça, c'en est un, qui sont des vrais snapshots, pas Snapchat, hein, snapshots.
C'est bien de préciser.
Des vrais clips de moments que j'ai vécu. Donc là, en l'occurrence, c'est moi, mon père et Patience, et on dansait sur cet album de Talking Heads beaucoup, beaucoup, beaucoup. We danced to Talking Heads, three heavy birds trying to fly. Sometimes when they free based, I'd write down what they'd recite.
Engine Off et les fameux Talking Heads chantés par Brisa Rocher.
Et tout le monde ne comprend pas l'anglais comme vous, Jean-François, et parfois même la chanteuse Brisa.
Moquez-vous.
Ne pas du tout, on aimerait ne rien entendre d'une composition comme elle le chantait toujours dans Engine Off que nous venons d'entendre.
Là, c'est un moment dans une chanson où mon père est en train de faire du détox alcoolique non souhaité sur un lit, donc il sue, il tremble. Et moi, je suis à côté de lui. Et j'essaie de dire qu'il n'y avait pas de musique. C'est pas comme s'il y avait une chanson ou la radio ou un aspect fête ou quoi que ce soit. C'était une espèce de silence avec sa respiration et tout ça. Et si il y avait un morceau qui allait avec cette ambiance, je ne voudrais pas la connaître. Parce que ça sentait la mort et ça sentait mon impuissance. Ça aurait été un morceau horrible. I splayed the blades out on my sheet and where they met I placed the yellow lid trying to go.
Control, Brisa Rocher qui évoque dans cet opus son papa qui l'a beaucoup marqué entre l'âge de 6 et 16 ans.
Où elle vivait à cette époque aux États-Unis, d'où ces lieux, Roseburg, Eugene et autres sunsets qui apparaissent dans ses textes. Alors comment se sent-elle en France en tant qu'artiste, Brisa Rocher?
Alors moi je trouve que la France est le luxe pour l'art. C'est pas mal de grandir en tant qu'artiste aux États-Unis puisque tu es ridiculisé, pauvre, mis en dehors de la société, et il faut vraiment que tu aies quelque chose à exprimer, une vraie, vraie envie et poésie profonde pour insister. Tandis qu'en France, avec toutes les aides et les écoles et l'intermittence et des dossiers que tu peux faire, et des subs et des machins et des machines, tu peux à 16 ans te dire « Ah tiens, pourquoi pas être une artiste ?» et puis tu peux y arriver. Donc là, c'est les aspects mauvais. Mais pour une artiste qui vient des États-Unis et qui arrive en France, c'est le paradis.
I lay in the back seat waiting silent with the villain each heartbeat saying he was mean. Holy, holy, holy badness. When you try to separate it out, it leads to madness.
Holy badness, Brisa Rocher.
Un disque entièrement consacré à son père, au point même d'y entendre sa voix.
Oui, ça se passe sur la dernière plage et c'est Brisa Rocher qui va nous le raconter.
C'est mon père qui lit son propre écriture et que j'ai trouvé sur une cassette. Il est dans une voiture, il part de Los Angeles et il va vers la source de toute l'eau de Los Angeles. Et il va vers la pureté des origines, il va vers le tout début de tout. Et pour moi, en fait, quand je l'entends lire ça, pour moi, il va vers aussi le tout début qui est la fin, qui est la mort.
Cruising up Highway 395 from Los Angeles. I've been working all week down there, where it's so bright.
Don't say that I belong. Don't say that I belong. Don't say that I belong to you. You know you're wrong. You know you're wrong. Instead of screaming.
La voix du papa de Brisa Rocher mixée à Before I'm Gone sur son nouvel album Father dans le Café Gourmand de VMDN. Merci Alain, merci également à Daphné, Carmen et Fanny. Dans un instant l'info, on se retrouve lundi pour fêter le retour des frères Touré Kounda et vous m'en direz des nouvelles.